l'autre jour, j'ai lu un livre dont toute l'histoire repose sur la trajectoire d'un personnage au sein d'un mouvement d'extrême droite. En fait, j'ai même lu trois romans très très différents, mais qui tous ont un point commun et explorent les figures d'extrême droite dans la fiction. Et si, à mon sens, il est très courant de voir des personnages d'extrême droite représentés au cinéma ou dans les séries télé, c'est beaucoup moins courant dans la littérature. Peut-être vous direz-vous que j'ai d'étranges lubies. Peut-être. Il n'empêche que la représentation de l'extrême droite est souvent binaire, soit sous l'angle du sadisme, le fait que les gens sont des psychopathes, soit sous le prisme du relativisme complet des valeurs et qu'il faut écouter la parole de chacun et que, au final, est-ce que tout n'est pas une histoire d'opinion et que toutes les opinions se valent. La représentation de personnages, de figures d'extrême droite dans la littérature, est pour le moins délicate pour des auteurs ou créateurs au sens large. Il serait facile de dire que les représenter, c'est être d'accord avec eux, c'est justifier les choix et les actions de ces personnages, voire leur témoigner une sympathie cachée. Car, quitte à traiter ce sujet, il faut prendre le parti des victimes des personnes qui ont été persécutées. Mais ce serait donner à la littérature un rôle qu'elle n'a pas et la contraindre dans sa capacité de représentation. La question que je me suis posée et que je me pose ici avec vous à la lecture de ces romans, mais aussi d'essais historiques, est la suivante. Bon, en réalité, il y en a deux. Comment ces personnages sont représentés, de 1. Que nous apprennent ces représentations, si tant est qu'elles prétendent qu'elles cherchent à nous apprendre quoi que ce soit? Et surtout, en fait, une troisième, quel intérêt pour le lecteur? Bienvenue sur Hiatus, le podcast qui vous offre une pause littéraire dans votre quotidien, préparé, monté et animé par moi-même, Qu'est-ce qu'on lit ? Vous pouvez aussi me retrouver sur la chaîne YouTube du même nom. À chaque épisode, un livre lu récemment sera le point de départ d'une réflexion plus globale, touchant à la littérature mais pas seulement, et surtout, sans snobisme, sans élitisme. Vous pouvez dès à présent retrouver les premiers épisodes sur YouTube ou sur Spotify et toutes les autres plateformes de podcast ou presque. Cet épisode est basé sur trois romans qui sont très, très différents. Le premier est La toile d'araignée de Joseph Roth, un auteur juif autrichien, publié aux éditions L'Imaginaire de Gallimard. Le deuxième, Ce qu'il faut de nuit, de Laurent Petit-Mangin, un auteur français contemporain, publié aux éditions La Manufacture. Et le troisième, Blond comme les blés, de Sion, un écrivain islandais, publié aux éditions Le Métayer. Je me base aussi sur un essai, Eichmann à Jérusalem de Hannah Arendt, assez connu car il est le fondement de son concept de la banalité du mal. En commençant La toile d'araignée de Joseph Roth, au hasard d'une découverte sans savoir de quoi il en retournait, j'étais surprise et très mal à l'aise au cours de ma lecture. Et tout s'est expliqué après coup, après avoir fait des recherches sur ce livre. Car Théodore Loos, le personnage principal du roman, revient de la Première Guerre mondiale. Son grand déshonneur est d'être en vie. Il est un encombrement pour sa famille, qui pleure son père mort au front en héros. Théodore est jeune et frustré de sa position sociale, de sa vie. Il est convaincu qu'il n'a pas ce qu'il mérite pour le simple fait d'exister. Il n'a ni succès, ni statut, ni richesse. Il se sent indésirable et indésiré. Il regrette la rigueur de l'armée où, au moins, il avait une place et il en connaissait les règles. Il cultive des pensées haineuses, d'autant plus que pour gagner sa vie, il est le précepteur des enfants d'une riche famille juive. Il canalise sa haine contre les juifs, responsables, selon lui, de tous les maux. Extrait du livre. Théodore grandit dans la maison de son père, le contrôleur des douanes et ancien adjudant Wilhelm Loos. Le petit Théodore était un enfant blond, appliqué et bien élevé. Il désirait ardemment avoir l'importance qu'il acquit plus tard, mais sans jamais oser y croire vraiment. On peut dire... il dépassa les espérances qu'il n'avait jamais placées en lui. Le vieux Loos ne vécut pas assez longtemps pour connaître son fils adulte. Le livre se passe probablement en Allemagne ou en Autriche, ce n'est jamais clairement précisé. À la fin de la Première Guerre mondiale, dans ce contexte d'humiliation collective et individuelle, comme le vit Théodore. Petit à petit, Théodore va se rapprocher des milieux nazis, jusqu'à en devenir un élément clé très actif. En fait, pour cet homme cynique et opportuniste, le national-socialisme est un levier pour satisfaire son ambition personnelle. Le mouvement profite d'ailleurs largement du soutien du gouvernement, dont de nombreux membres font partie. Théodore n'est pas une victime d'un mouvement qui le dépasse. Il n'est pas naïf sur la nature de ce à quoi il contribue. Il n'est pas non plus un psychopathe qui satisfait ses délires sadiques et meurtriers. Il est un homme conduit par son intérêt personnel, son désir d'ascension et de reconnaissance sociale. Il n'a pas de morale, pas de compassion envers ceux qu'il va utiliser et trahir. Le nazisme devient un groupe politique de taille et il veut en être, il veut une place à cette table. Et c'est ça qui fait froid dans le dos, car pendant tout le roman, on suit l'ascension de Théodore au sein de cette organisation secrète qui ne dit pas encore son nom. Et ce sont ses pensées que nous écoutons, découvrons. Et ce n'est pas peu dire que Théodore est détestable. Il est un personnage odieux qui, lorsqu'il a le choix, choisit la violence, se choisit lui-même, choisit l'organisation. Il est prêt à tout pour assouvir sa soif d'ambition et de pouvoir, peu importe que d'autres puissent souffrir ou être lésés par ses actions. Ceci dit, je dois vous avertir d'un problème que nombre de lecteurs ont ressenti à la lecture, moi y compris. Le roman est affreusement décousu. Il est difficile à suivre et la fin est très décevante. Elle ne ressemble pas à une fin, mais plutôt à un arrêt brutal de l'écriture, la fin d'un chapitre à la limite. Tout s'explique car, en fait, il s'agit d'une œuvre de jeunesse de Joseph Roth qui était restée dans ses tiroirs, qu'il avait publié en partie sous forme de feuilleton en 1923, mais qu'il n'avait jamais achevé. Et s'il est louable de l'éditeur, ici donc la collection L'Imaginaire de Gallimard, de mettre cette œuvre, qui a des qualités certaines à notre disposition, il est regrettable que l'édition soit dépourvue de toute note qui nous aiderait à comprendre la lecture et qui comblerait cet aspect inachevé. Quand on fait le choix d'éditer ce type d'œuvre, il faut vraiment aller au bout de la démarche et accompagner le lecteur. Car là, j'ai eu l'impression de m'être fait un peu flouer. Comme si j'avais acheté un objet dont il manquerait les pièces finales pour qu'il fonctionne vraiment, et que je devais rafistoler moi-même. Si j'avais su qu'il s'agissait d'un livre inachevé et non commenté, peut-être ne l'aurais-je pas acheté. Ou peut-être y serais-je allé justement sans cet a priori, face à ce que le livre est vraiment. Il y a une responsabilité de l'éditeur qui ici n'a pas été prise, et je le regrette énormément. J'aurais aimé du contexte sur la publication ou encore la réception, car Joseph Roth est en réalité bien ça, un visionnaire de son temps. Aujourd'hui, à notre époque, les noms des principaux dirigeants nazis et leurs crimes sont largement connus. Il ne s'agit pas d'eux. Ce roman personnifie, incarne le nazi moyen, celui qui est à la base d'une structure étatique complexe, formée dans le but d'atteindre la mise en application de son idéologie raciste fondée sur la supériorité de certaines races sur d'autres. Voilà qui ils étaient. Ou du moins, voilà comment certains d'entre eux étaient. Non pas des innocents, non pas des idiots, non pas des personnes pour qui il s'agissait d'un travail comme un autre. Ce qui est glaçant, c'est que des Théodore Loss, des jeunes frustrés qui sont convaincus qu'ils méritent plus et qu'ils n'ont pas ce qu'ils méritent, il y en a plein, il y en avait plein à l'époque, et il y en a plein aujourd'hui aussi. Extrait du livre. C'était le mariage européen. Voici que se mariait un homme qui avait tué sans intelligence, travaillé sans esprit, et il engendrerait des fils qui tueraient à leur tour, seraient européens, meurtriers, criminels et lâches, nationalistes et belliqueux, dévots et sanguinaires, fidèles aux dieux européens qui tenaient les rênes de la politique. Théodore engendrerait des enfants, des étudiants en rubans multicolores, qui peupleraient les écoles et les casernes. Concernant la toile d'araignée, je ne peux pas vous le recommander en mon âme et conscience car il est trop inachevé et souffre de ce manque cruel de travail d'édition qui aiderait vraiment à le mettre en avant. Mais des années après, ce livre continue à me faire froid dans le dos et apporte un éclairage d'une rare pertinence sur la montée des groupes d'extrême droite aujourd'hui. Passons justement maintenant au deuxième livre, qui lui prend place après la Seconde Guerre mondiale autour de la création d'un groupuscule néo-nazi en Islande. À l'annonce de la sortie de Blond comme les blés de Sion, un auteur islandais très connu, j'étais enthousiaste car je me suis dit que ce serait un La toile d'araignée, mais achevé, sur justement comment on devient néo-nazi. La réalité est malheureusement tout autre. J'ai rarement lu un livre aussi décevant par rapport à sa promesse initiale. Le roman se passe à Reykjavik, la capitale islandaise, et débute pendant la Seconde Guerre mondiale. Le personnage principal est donc Gunnar Kampen, qui a vraiment existé. Il est le fondateur du parti politique néo-nazi islandais et il a participé activement à l'organisation internationale néo-nazie, alors en pleine croissance. Que le roman soit construit bizarrement ne m'a pas dérangé. Pourquoi ? Le roman débute en réalité sur la mort de Gunnar dans un train en Angleterre, alors qu'il est atteint d'un cancer et qu'il est très affaibli. C'est une sorte de roman policier à l'envers, et en vérité, cette mise en situation n'a finalement apporté que peu de choses. Après cette ouverture à contre-courant, il y a une première partie sur l'enfance de Gunnar, dans un style froid, lointain, dont il ne se dégage finalement pas grand-chose, ni émotion, ni conclusion, ni compréhension, ni attachement du personnage. La deuxième partie du livre est une succession de correspondances lors de la vie adulte de Gunnar qui permet d'avoir différents points de vue et de comprendre sa pensée et en partie son évolution radicale. Et enfin, la troisième partie revient au style du roman plus classique, notamment sur la création du mouvement international nazi qui était alors en train de se structurer. Qu'un roman soit déconstruit et demande un peu de travail au lecteur, je suis sur le principe tout à fait pour. En tout cas, je n'y suis jamais fermée. J'aime être surprise et étonnée. Mais ce livre n'a pas été satisfaisant à mes yeux. Sans doute car il est très court et que tout est sinon effleuré, du moins toujours présenté dans un style froid qui met tout à distance et ne rentre jamais au cœur du sujet, jamais au cœur de la conscience de Gunnar. La quatrième de couverture nous dit que Sion examine le parcours d'une vie, d'une époque et d'une radicalisation rythmée par la simplicité absolue de son quotidien. Il est vrai que Gunnar est étonnant en ce sens. Son combat est purement idéologique. Il est avant tout actif par la diffusion de ses idées, la création d'un journal et d'un mouvement, tout en vivant une vie simple d'employé de banque, un homme lambda qu'on pourrait croiser dans la rue. Extrait d'une lettre écrite par Gunnar, insérée dans le roman. Chef de parti Goran Asar au Red Sun. Nous, nationalistes islandais, te saluons le bras levé et la main tendue, et espérons que cette lettre vous trouvera, toi et nos camarades suédois du Nordiska Partiet, le parti du Reich nordique, plein de vigueur et de combativité. Depuis les dernières nouvelles que nous t'avons adressées, nous avons mis de l'ordre dans nos activités en suivant la plupart de tes conseils. Nous sommes également en contact avec Madame Savitiri Devi Murkeji pour le plan idéologique et avec l'officier George Lincoln Rockwell pour les questions de développement. La principale nouveauté est que nous avons choisi un nom pour notre parti, Mouvement pour une souveraineté plénière. Le roman a plus des allures de journal de bord biographique qui s'attache avant tout à la banalité de la vie de Gunnar, à ce petit homme sans grandeur, sans intérêt particulier, dont le père d'ailleurs était un farouche opposant à Hitler, qui a vécu une enfance sinon heureuse, du moins sans choses notables, entouré de sa mère et de sa sœur, et qui pourtant a développé une conscience politique néo-nazie. On comprend bien comment pense Gunnar, mais on ne comprend jamais pourquoi. Et peut-être Sion veut nous faire froid dans le dos avec cette conclusion. Il n'y a pas de pourquoi, on ne peut pas expliquer. Pourquoi pas ? Mais je reste un peu sur ma faim avec ce parti pris presque trop cynique à mon goût. Car le livre n'apporte finalement que peu de choses. Rien n'est dit, rien n'est insinué. Et puis, Gunnar, sur certains points, est un homme banal qui pourrait être un voisin, un collègue. Mais il n'est pas banal, car il se comporte en leader. Il fonde un mouvement, il est un militant convaincu. Il fait le choix et dédie sa vie à son idéologie. Et rien n'interroge le lecteur. Rien ne lui permet de prendre du recul sur la société islandaise de l'époque, sur le milieu dans lequel Gunnar évolue. À part faire le constat de la pérennité de l'idéologie néo-nazie aujourd'hui, ce livre n'apporte ni subtilité, ni intérêt pour le lecteur, à qui l'on demande un peu trop à mon goût. Dire que, oui, c'est au lecteur d'aller se renseigner, d'aller recomposer les pièces du puzzle, alors que le lecteur en question a dépensé 16 euros dans ce tout petit livre, froid et décevant, c'est exagéré. Extrait du livre. La promotion de l'héritage culturel islandais est inexistante. l'association nordique de Reykjavik est un repère d'oiseaux sans couilles. À l'université, la faculté d'islandais est dirigée par un toxicomane. Un poète paillard a été nommé à la tête du musée national et le précédent directeur de la radio était un adepte du spiritisme. Grand merci à toi pour les exemples que tu as fournis sur la manière dont vous réagissez face aux exagérations concernant les camps d'extermination. Nous les conservons précieusement. En Islande, les Juifs font preuve de discrétion. Ils évitent d'attirer l'attention sur eux en exposant leur calvaire en place publique. Mais nous supposons que tout cela sera utilisé contre nous quand notre parti prendra de l'ampleur. Et plutôt que de critiquer ce livre que, vous l'aurez compris, je n'ai pas vraiment apprécié, il me semble important de soulever une autre dimension. À part la toile d'araignée, ce livre et celui que je vais vous présenter juste après ne rentrent à aucun moment dans la tête des personnages ou ne donnent un contexte plus global pour apporter des clés de compréhension et des interrogations au lecteur. Dans quelle mesure, en fait, un auteur se retrouve démuni face à l'écriture de ses personnages ? Expliquer n'est pas justifié, détailler n'est pas pardonné. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a une difficulté fondamentale comme un empêchement, conscient ou inconscient pour l'auteur, de prendre le parti pris d'écrire la conscience d'un personnage d'extrême droite, d'un personnage néo-nazi, d'un personnage considéré socialement comme odieux. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de peur ou en tout cas de retenue dans la description d'un personnage d'extrême droite ? Est-ce que, en réalité, c'est si facile d'écrire ce type de personne ? Ou peut-être, dans le cas de ce livre précisément, la volonté de ne pas donner des pensées à une personne ayant vraiment existé, et donc ne reste que cette possibilité de restituer comme de l'extérieur. La dernière chose est presque la plus importante sur ce que je voulais dire à propos de Blond comme les blés. Sur la quatrième de couverture, il est indiqué ceci. Blond comme les blés est une œuvre limpide, un écho de la banalité du mal d'Anna Arendt sous les apparences d'un roman nordique. Et alors là, étant donné que je viens de finir l'essai d'Anna Arendt, Eichmann à Jérusalem, où elle introduit le concept de banalité du mal, je peux vous dire sans détour que c'est un grossier contresens. Gunnar n'incarne pas du tout la banalité du mal, car il est actif, pense, formule, structure son idéologie. Extrait du livre. Nous recevons en permanence les encouragements de braves gens d'un peu partout. Hélas, depuis qu'Axel a trahi notre cause, la majeure partie de notre activité en Islande repose sur mes épaules. Je consacre toute mon énergie à notre idéal. Je vais détailler un petit peu pour que ce soit plus clair, car le concept a été tellement remanié et tellement passé dans le langage commun qu'il devient un fourre-tout où on peut y mettre tout et son contraire. Il est temps de balayer un peu. Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal, est un livre de la philosophe Anna Arendt, publié en 1963. Arendt a suivi le procès d'Eichmann, un membre du parti nazi qui a contribué à la déportation des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Eichmann, comme de nombreux nazis, avait fui à la fin de la guerre en Argentine, où il a été capturé par des membres des forces spéciales israéliennes pour être jugé en Israël. Son procès a eu un grand retentissement pour de nombreuses raisons. Le fait qu'il soit jugé en Israël et non en Allemagne, qu'il ait été kidnappé pour comparaître devant la justice et encore d'autres raisons, dans un scénario digne d'un film d'espionnage américain. Eichmann a été condamné à la peine de mort à l'issue du procès, qui a duré de longs, longs mois. Et Anna Arendt donc a suivi son procès. Elle a écrit une série d'articles qu'elle a ensuite traduit dans un essai complet qui revient sur les actions individuelles, le rôle d'Eichmann sous le Troisième Reich et le contexte global dans lequel il a agi. C'est le meilleur essai que j'ai lu depuis longtemps. Je ne peux que vous le recommander car j'ai rarement eu autant l'impression non seulement d'apprendre des choses historiques, mais de me confronter à un point de vue auquel je ne serais jamais parvenu par moi-même. Tout est détaillé, documenté et met en évidence une dimension du Troisième Reich que je n'avais encore jamais pensée et auquel on ne m'avait pas préparé même en cours d'histoire. L'appareillage étatique puissant et meurtrier, où ce ne sont plus les individus seuls, mais tout un système logistique, huilé, rodé, à l'échelle européenne, une structure bureaucratique complexe. Et on y apprend des choses telles que le fait que les populations juives, et tous les déportés, devaient eux-mêmes remplir les déclarations de leurs biens qui ensuite étaient saisis, et devaient aller jusqu'à payer pour aller vers leur propre mort. Rétrospectivement, cela semble évident qu'il y ait eu une telle organisation, une efficacité à tous les niveaux pour atteindre le nombre de morts qu'il y a eu, mais ça ne m'avait jamais été présenté sous cet angle, uniquement sous l'angle de l'idéologie nazie, de sa montée et de sa destruction ensuite à l'issue de la guerre. Et si certains textes d'Arendt sont, et je le dis en toute franchise, trop difficiles, trop ardus pour moi, Eichmann à Jérusalem est accessible et limpide. Le travail d'édition est aussi à remarquer, car l'éditeur préface le livre non en nous révélant toute la substance, ce qui m'horripile toujours dans les préfaces, mais en resituant le contexte politique post-Deuxième Guerre mondiale, et surtout l'émoi qu'a causé cet essai. Car encore aujourd'hui, cet essai peut faire grincer des dents. Pourquoi ? Pour plusieurs choses, et je vais commencer par la deuxième raison, qui est que le livre met en évidence, en se basant sur d'autres recherches historiques, le rôle des conseils et des autorités juives dans l'exécution des déplacements, des déportations des populations juives d'Europe. La collaboration entre des autorités juives et les dignitaires nazis. Tout simplement. La première raison est la lecture de la personnalité d'Eichmann et de son rôle décrit par Arendt. Loin d'incarner le mal, la méchanceté, le sadisme ou encore la froide idéologie qu'on pourrait imaginer, Eichmann est un petit homme insignifiant. Il s'embrouille dans ses propos et ses souvenirs. Il se souvient des événements seulement quand ils ont un lien direct avec sa carrière. Car il est un arriviste qui a fait partie des rouages du système, mais pas de la tête pensante. Lui-même ne se considérait pas antisémite. Il disait qu'il n'avait rien contre les juifs et n'a rejoint le parti SS que par opportunisme pour s'élever socialement. Extrait du livre. Il n'avait jamais haï les juifs. Il n'avait jamais voulu le meurtre d'êtres humains. Il n'était coupable que parce qu'il avait obéi, et l'obéissance était considérée comme une vertu. Dans sa vie monotone, vide de sens et dépourvue d'importance, le vent avait soufflé pour le projeter dans ce qu'il croyait être l'histoire. Il s'agissait en fait d'un mouvement qui ne s'arrêtait jamais, et dans lequel un homme comme lui, déjà un raté aux yeux de sa classe sociale, de sa famille, et donc à ses propres yeux aussi, pouvait repartir de zéro et faire, enfin, carrière. Déclassé, frustré, mais aussi ambitieux, Eichmann n'aurait ainsi gravi les échelons du parti et de l'appareil qu'en saisissant des opportunités de reconnaissance. Et pourtant, par ses différents postes, il a contribué aux déportations des Juifs dans l'Europe d'abord, dans divers ghettos, puis vers les camps de concentration. Il n'a rien d'un leader, rien d'un idéologiste. Il explique qu'il ne faisait que suivre des ordres. C'était juste un petit homme, horriblement banal, qui a contribué à quelque chose d'ignoble, et ce pendant des années. Et attention, il n'est pas fou, il n'est pas stupide. Il a même lui-même été profondément choqué en découvrant les camions ambulants dans lesquels on gazait des gens. Il a trouvé les crimes atroces. Extrait du livre. Eichmann est effaré par le sadisme, la violence. Il disait qu'il n'était pas assez dur pour supporter ces choses-là. Il s'était occupé de transport et non de meurtre. Il avait vu les endroits vers lesquels les convois étaient dirigés et il avait été profondément choqué. Sa conscience avait été révoltée non par l'idée de meurtre, mais par l'idée du meurtre de juifs allemands. Lui, Eichmann, planifiait la logistique, il organisait, exécutait les ordres venus d'en haut et faisait bien son travail. Il en tirait une certaine fierté. Eichmann prétendit plus d'une fois que ses dons d'organisateur, la coordination des évacuations et des déportations effectuées par son service, avait de fait aidé ses victimes. S'il fallait absolument que cette chose soit faite, il valait mieux qu'elle soit faite en bon ordre. Tout cela, bien que factuel, a fait l'objet d'un scandale, d'un émoi collectif contre le livre d'Arendt. Des gens se sont attachés à montrer qu'elle avait tort. On avait envie, besoin peut-être, que les nazis à l'origine de toutes ces atrocités soient des psychopathes en puissance, des monstres sanguinaires sans foi ni loi, aveuglés par le racisme d'État et le désir d'extermination. Il fallait qu'Eichmann ait tout pouvoir et soit parfaitement conscient de ce à quoi il contribuait. Extrait du livre. Eichmann n'était la source de rien, même pas du mal qu'il a fait et répandu. La banalité de son être ne saurait rien prouver sur un plan historique, sociologique ou philosophique. La banalité du mal d'Arendt n'est pas de dire que tout le monde peut être Eichmann et que nous pourrions tous être à sa place, que nous aurions tous agi de la même manière. Non. La banalité du mal, ce n'est pas que le mal est banal. C'est que des êtres aussi banals qu'Eichmann sont capables de participer à des actions atroces sans le vouloir d'eux-mêmes, sans s'en rendre compte, dans un désir de conformisme absolu. Extrait du livre. L'ennui avec Eichmann, c'est précisément qu'il y en avait beaucoup qui lui ressemblaient et qui n'étaient ni pervers, ni sadiques, qui étaient et sont encore terriblement et effroyablement normaux. Du point de vue de nos institutions et de nos critères moraux de jugement, cette normalité était beaucoup plus terrifiante que toutes les atrocités réunies, car elle supposait que ce nouveau type de criminel commet des crimes dans des circonstances telles qu'il lui est pour ainsi dire impossible de savoir ou de sentir qu'il fait le mal. L'intention de tuer ou de faire le mal n'était pas là. Ni Théodore Loos de la toile d'araignée, ni Gunnar Kampen de Blond comme les blés ne rentrent dans la catégorie de cette banalité du mal. Et ce qui nous amène, quand on se penche à la question des circonstances, du contexte global des personnalités individuelles, au dernier livre dont je voulais vous parler. Cette fois-ci, retour au genre du roman et un roman français.
Les bois sont par ici, la moitié nous a caressé, les étoiles brillent le soir ici. Faut qu'on se barre d'ici, toutes tes bois sont par ici, toutes tes bois sont par ici, les étoiles brillent le soir ici.
Ce qu'il faut de nuit est le premier roman de Laurent Petit-Mangin. Pour tout vous dire, le sujet du livre n'est jamais clairement mentionné. On parle, en tournant autour du pot, d'un drame familial, on laisse planer le doute de quelque chose d'atroce. Je ne sais pas pourquoi avoir voulu faire tant planer ce mystère. Je trouve que le postulat du livre aurait mieux fait d'être mentionné tout de suite, car il est assez original. Dans une famille de la Creuse, un homme élève seul ses deux fils, Fus et Gilou, après le décès de sa femme qui a succombé à un cancer. Le père est un fervent socialiste, l'un des derniers à maintenir la cellule du PS mourante dans leur petite ville. Les jeunes ne prennent tout simplement pas la relève, ne s'intéressent pas à la politique. Un jour, le père est profondément choqué, car on lui dit que son fils aîné a été vu en train de distribuer des tracts de Marine Le Pen. Tout le livre tourne autour de l'appartenance du fils aîné à un groupe de skinheads d'extrême droite, de la réaction de la famille, des personnes aux alentours, mais surtout de la violence de toutes parts qui en découle. Extrait du livre. Fus a commencé à moins bien travailler, à piocher, à ne pas aller en cours. Il avait des excuses toutes trouvées, l'hôpital, sa mère, la maladie de sa mère, les rares embellis dont il fallait profiter, les derniers jours de sa mère, le deuil de sa mère, 3 ans de merde où il m'avait vu totalement impuissant, plus capable de m'asseoir à côté de lui quand il était en larmes sur son lit. La violence du livre est avant tout physique bien sûr, mais elle prend aussi d'autres formes plus sourdes, plus insidieuses. Le père coupe toute communication avec son fils aîné. Il vit comme une honte terrible l'appartenance de son fils à l'extrême droite. Et sa solution est donc de ne plus jamais lui adresser la parole. Alors oui, pour lui qui lui a inculqué des valeurs de gauche toute sa vie, c'est un choc. Mais contribuer encore un peu plus à l'isolement de son fils est une forme de violence. Surtout qu'en fait, le fils ne semble pas changer. Il reste gentil, poli, proche de son frère. Il ne devient pas ni un mercenaire, ni un manifestant forcené, non. Et on s'attache beaucoup dans le livre aux deux fils, l'aîné d'extrême droite comme le plus jeune. On comprend et on ressent leur isolement dans cette zone désertique sans espoir de boulot, dans cette population vieillissante, l'impression de gâcher leur vie, de passer à côté de quelque chose. On ne sait pas pourquoi l'aîné devient d'extrême droite. Ce n'est jamais dit. On ne rentre pas dans la tête du personnage, car toute l'histoire est racontée du point de vue du père. Certains lecteurs reprochent ce choix à l'auteur dans des commentaires en ligne, disant qu'il n'explique pas, qu'on ne comprend pas. Mais est-ce le rôle de la littérature d'expliquer ? C'est un roman, c'est pas une recherche sociologique. Le roman montre. Il montre quoi ? Des personnages, des situations, des faits. Extrait du livre. Est-ce qu'on est toujours responsable de ce qui nous arrive ? Je ne me posais pas la question pour lui, mais pour moi. Je ne pensais pas mériter tout cela. Mais peut-être que c'était une vue de l'esprit. Peut-être que je méritais bel et bien tout ce qui m'arrivait. Et que je n'avais pas fait ce qu'il fallait. Le roman est l'équivalent de montagne russe d'émotions. et c'est le seul des trois romans mentionnés dans ce podcast que je vous recommande vivement. Le lecteur est face à une dimension de l'extrême droite qui fait réfléchir un peu différemment. Car déjà, l'aîné, comme je le disais, n'est pas un être abominable. Et tout cela se passe dans une réalité très, trop proche. Et si c'était votre propre famille? Et si c'était votre propre frère? Est-ce qu'il faut comprendre, expliquer, accompagner? Il aurait été très facile d'enfoncer des portes ouvertes, de tomber dans des clichés qui font lever les yeux au ciel. Mais ici, force est de constater que Laurent Petit-Mangin maîtrise à la perfection la nuance et une palette d'émotions très, très vives. Au point que j'ai eu envie d'aller plus d'une fois secouer le père dans toutes les directions pour lui dire d'arrêter d'être aussi passif et fermé, car ce livre est aussi celui de l'incapacité émotionnelle des hommes tels que le père du livre. Certains choix dans l'histoire me font me poser beaucoup de questions, encore aujourd'hui. Je me demande si certains de ces choix ne confisquent pas justement la possibilité d'autres cheminements réflexifs ou émotionnels pour le lecteur. Mais voilà, Laurent Petit-Mangin ne cherche pas à nous convaincre, à nous prouver quoi que ce soit. Ce qu'il faut de nuit est un voyage dans la précarité, des territoires isolés, dans une jeunesse sans perspective. C'est une histoire de liens familiaux fragilisés et de violence partout, sous toutes ses formes. Cet épisode m'a donné beaucoup de fil à retordre. Et j'ai l'impression qu'il est difficile pour les écrivains eux-mêmes que peu s'y risquent, pour plein de raisons qui ne regardent qu'eux. Parmi tous les livres que j'ai cités, je vous recommande chaudement l'essai d'Anna Arendt, Eichmann à Jérusalem, qui a été une très belle découverte, et Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin, un roman poignant et sensible qui se lit d'une traite. Je pense que je l'ai lu en un jour ou presque. En conclusion, je me suis posé la question de pourquoi j'ai choisi ce thème d'épisode. Il y a plusieurs raisons. La première étant qu'ayant lu plusieurs livres sur ce thème, j'ai trouvé intéressant de l'explorer. Ensuite, surtout dans Blond comme les blés et Ce qu'il faut de nuit, les mêmes critiques reviennent. L'auteur n'explique pas pourquoi le personnage devient d'extrême droite. Il n'y a pas de moment marquant dans l'enfance, il n'y a pas un traumatisme à l'origine de ce choix. Il n'y a pas de contexte familial d'extrême droite, on ne sait pas. On peut tirer des conclusions nous-mêmes, ou en tout cas des ébauches de conclusions. Mais l'auteur ne dit rien. Est-ce qu'il ne dit rien car il ne sait pas? Ou plutôt, il ne souhaitait pas dire. Je me suis dit, peut-être qu'il y a une crainte inconsciente d'être considéré comme complaisant, compatissant envers des groupuscules qui sont littéralement à l'origine des pires horreurs du siècle dernier. Mais il serait trop facile de s'en tenir là. Ce que ces livres montrent, c'est qu'il y a autant de raisons d'être d'extrême droite que de situations personnelles, familiales, de contexte historique. La fiction nous amène à considérer ces phénomènes d'une autre perspective, loin des seuls livres d'histoire et des faits relatés historiquement. Et si les écrivains ne nous expliquent pas simplement, clairement, facilement le pourquoi du comment, c'est parce que c'est impossible. Mais ils nous forcent à regarder cette réalité en face, à nous poser des questions et à être mal à l'aise, car oui, ces livres ne sont pas là pour nous faire plaisir. Je suis convaincue que plus le spectre imaginatif auquel nous avons accès est large, plus nous pouvons réfléchir et continuer de grandir, de nous poser des questions. Et surtout, il n'y a pas de conclusion généralisable. Il y a une myriade de raisons pour lesquelles les gens font les choix qu'ils font. Et toutes ces raisons ne sont pas conscientes ni explicables. On ne peut pas tous être Eichmann, bon, qui, lui, n'est pas un personnage. On ne peut pas tous être Gunnar ou Théodore. Et pourtant, ils existent dans la littérature et reflètent des traits réels partagés. Quand on regarde les personnages d'extrême droite qui sont représentés dans les films, dans les séries, dans l'univers fictionnel en général, ce sont souvent des personnages qui sont caricaturaux au possible. On va grossir les traits de leur sadisme, de leur psychopathie, comme si, quelque part, ça nous soulageait, car il faut forcément représenter ce type d'individu pour être d'extrême droite. Mais la vérité, la réalité en tout cas, aujourd'hui, du paysage politique, nous prouve que c'est faux. Et il me semble que ces livres, avec les défauts qu'ils ont, apportent plus de nuances. Nuances qui sont nécessaires pour comprendre les mécanismes à l'œuvre et donc espérer vaincre ces idéologies. Je ne dis pas qu'on doit s'émouvoir sur la vie des néo-nazis d'aujourd'hui, mais même si ça ne nous fait pas plaisir, ces personnages représentent une réalité difficile à saisir au quotidien, aussi en littérature. Et qu'on n'ait pas envie de lire ces livres, que l'on considère qu'il y a 1000 livres plus intéressants et plus pertinents que des livres sur des personnages néo-nazis ou extrémistes, je le comprends parfaitement. Je n'essaie pas de convaincre qui que ce soit. Juste, comme toujours, d'apporter une réflexion qui mêle des ressentis personnels sur des lectures et des informations documentées sur ces mêmes lectures. Voilà ma conclusion. Je suis curieuse d'avoir vos retours sur l'épisode et vos expériences de lecture sur un sujet aussi difficile à manœuvrer. C'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt. Hiatus est un podcast à fréquence aléatoire pour découvrir des livres et réfléchir ensemble. Si vous ne les avez pas encore découverts, les 4 premiers épisodes de la saison 1 sont déjà disponibles, ainsi que de nombreuses vidéos sur ma chaîne YouTube si vous préférez le format filmé. À bientôt !